Sortie de boîte. Sortie de boîte, Cédric Adrover.
Il n'y a probablement que dans le hall de l'entreprise de mon invité qu'on peut voir, sur une table, PME Magazine côtoyer Top Hockey. Ou encore The Economist, juste en face de Slapshot. C'est pourtant le cas ici, le hockey fait partie de l'ADN de l'entreprise Composite Bush à Porrentruy, et Slava Bikov trône sur un mur. Et il serait pourtant réducteur, et même complètement faux, de cantonner la société à la fabrication de cannes de hockey sur glace. Et je vais bien vite le constater. Mon invité vient me chercher, un calepin et un téléphone dans une main, on se rend dans une salle de conférence. En décoration, il y a bien des cannes de hockey, oui, mais c'est pas tout. On peut voir aussi un train d'atterrissage, il y a un porte-clés en fabrication additive qui représente une jambe articulée. On en parlera de tout ça. Mon invité, en préparant l'émission, me parle de son entreprise, bien sûr une société qui n'a pas attendu les crises pour se diversifier massivement. Et une heure glisse sans qu'on voit le temps passer. On n'a que 20 minutes aujourd'hui, alors on ne va pas perdre de temps. Bonsoir Ahmed Mederis.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de Composite Bush à Porrentruy. Vous avez deux vies, vous m'avez dit, une avant 2001, l'autre après. Alors on va commencer peut-être par parler de la première. Que faisiez-vous au XXe siècle?
Au XXe siècle, je suis de formation ingénieur civil. Et au XXe siècle, j'avais une carrière dans cette industrie. Notamment, j'étais basé en Angleterre. Mes premières expériences étaient dans la construction à Londres. Et suite à ça, j'ai ensuite voyagé un peu partout dans le monde, suivre des projets d'infrastructures, de construction, des aéroports et d'autres.
C'est un technicien, en fait.
Je suis de formation ingénieur, oui. J'aime la technique.
Comment on passe de la technique à la gestion ?
C'est une évolution, je pense, nécessaire pour pouvoir évoluer. Il faut savoir gérer. Il faut apprendre à gérer les projets, les hommes, les femmes qu'on a sous notre responsabilité, la vision et les développements de l'entreprise. Ça s'apprend, bien sûr, mais il faut avoir envie d'être impliqué dans la gestion d'une entreprise.
Et comment vous terminez en 2001, vous arrivez en 2001 à la direction de Composite Bush à Porrentruy?
Alors c'est une opportunité qui m'a été proposée et je l'ai prise avec vivement parce que j'ai vu dans l'entreprise Composite Bush un grand nombre de potentiels de développement et de pouvoir faire évoluer cette entreprise. Et c'est ce qui m'a surtout motivé de reprendre les rênes de cette entreprise.
Il n'y a pas eu d'hésitation?
Pas du tout.
Et en plus, vous m'avez dit qu'il y a des points communs entre le béton armé que vous pouviez manipuler dans votre première vie et ce que vous faites aujourd'hui.
Tout à fait. Le béton armé, c'est typiquement un composite. Il est composé d'acier et de béton, qui sont l'armature en acier, et puis le béton, c'est le renfort. Et là, nous avons la même condition dans les composites, avec le carbone, la fibre, et la matrice, qui est la résine.
Votre entreprise Composite Bush est une entreprise bien connue dans la région, mais aussi au-delà, grâce au hockey sur glace, les cannes Bush, on en a parlé, elles ont fait à l'époque le tour du monde. Que représente ce produit aujourd'hui pour l'entreprise?
Alors, c'est un produit qui est très cher à l'entreprise. C'est un produit, c'est presque le seul produit, si ce n'est pas le seul, qui porte notre nom. Et qui est le nôtre, et qui est depuis le début de notre parcours et dans notre aventure de diversification, c'était un des premiers produits qu'on a fait. Et on a eu vraiment beaucoup de succès avec ce produit, on a eu beaucoup de premières, on était le premier fabricant à fabriquer une canne de hockey en composite, une pièce, on était les seuls au monde et les premiers au monde.
On l'a trouvée en NHL, cette canne.
On l'a trouvée en NHL avec beaucoup de succès. À l'époque, des équipes gagnantes de la Stanley Cup avaient plus de 9 joueurs à qui jouaient notre canne.
Pourquoi c'est plus le cas aujourd'hui?
Pour beaucoup de raisons. Pour beaucoup de raisons, la compétition asiatique a remplacé beaucoup des produits. La compétition aussi au niveau des clubs, mais c'est surtout aussi, je pense, en ce qui nous concerne, c'est que nous étions monoproduits. Et de fait de n'avoir que la canne à offrir, on avait un désavantage.
Et pas les patins ou d'autres accessoires.
Exactement.
Oui. Aujourd'hui, elle est rentable, la canne de hockey?
Pas tout à fait, mais elle est importante pour nous et on continue de la développer. Elle nous apporte, si c'est une rentabilité financière, je dirais que Oui, c'est une rentabilité difficile, mais elle nous apporte beaucoup plus qu'une rentabilité financière.
Alors, quoi ?
Alors ça nous rapporte cette image, ça nous rapporte le fait que nous avons un produit qui est fabriqué dans nos locaux et qui est joué au plus haut niveau sportif, aux Jeux Olympiques. Il était dans les mains des joueuses, par exemple, de l'équipe nationale suisse qui sont revenues de Sochi avec la médaille
de bronze.
Donc c'est des choses. C'est vraiment quelque chose dont on est très fier et qui, en réalité, aussi reflète l'ADN de notre entreprise, qui est la compétitivité, le produit bien fait et toujours au plus haut niveau.
Et quand les femmes suisses qui remportent le bronze en 2014 reviennent, ça vous apporte quoi, vous, concrètement, en termes d'image, ça...
Je pense, ouais. Oui. Je pense que cette image, c'est une image positive. Et je pense qu'on peut... C'est peut-être pas dans l'esprit de tous nos clients et tous nos partenaires, mais on est fiers de l'avoir. Et c'est surtout aussi motivant pour nos collaborateurs de savoir que notre produit est à ce haut niveau. Et aussi, on est fiers de soutenir le mouvement sportif dans le hockey grâce à la CAN, mais avec aussi des soutiens conséquents pour le HCHOA et surtout le mouvement junior.
Ce qui est un peu moins connu, c'est justement le niveau de production, parce qu'aujourd'hui les CAN de hockey, ça représente quoi en termes de...
Ça représente un très faible pourcentage de notre chiffre d'affaires, effectivement.
Alors, quelles sont les autres activités aujourd'hui de Composite Bush?
Alors, les activités, la base de notre développement était fabrication, développement, mise au point et fabrication de pièces pour les pompes à vide, du fait que nous faisons partie du groupe Bush, qui est le spécialiste des pompes à vide, et c'est là que tout a commencé. Ces pompes à vide, ces composants de pompes à vide étaient très critiques pour la pompe. On a pu apporter des avantages uniques avec les matériaux composites et on a voulu et été décidé de le garder uniquement pour les pompes Bush.
Pour garder cet avantage compétitif.
Tout à fait.
Et vous êtes diversifié aujourd'hui, on va en parler dans le médical, on va parler également d'aéronautique. Un point commun à tout ça, le composite à partir de carbone. Jean-Michel Probst est venu vous rendre visite dans l'usine. Il a rencontré Alain Lallemand, le directeur adjoint de l'entreprise. On se rend à Port-en-Truy.
Sortie de boîte.
Tout au départ, on arrive avec des fibres de carbone qu'on met en forme. Ensuite, ces fibres de carbone, on va les mettre dans un moule et on va l'imprégner de résine. Et en imprégnant de résine et en durcissant, vous donne un matériau composite très très rigide et très solide.
Le composite, ça veut dire en fait la composition entre ces différentes
Exactement.
Matières.
Exactement. Le composite, en fait, c'est un mot générique. Le béton armé est un composite qui est composé D'accord. de béton mmh. et renforcé de ferraille. Mmh. Et c'est là la force, l'union de la résine et des fibres qui fait le composite et qui fait la solidité.
Ici, il y a Olivier qui travaille sur les pièces d'horlogerie.
Bonjour.
Ici, vous voyez la toute dernière production qu'on a faite et qui a été présentée à Baselworld, en grande pompe pour une grande maison d'horlogerie. Et on en est assez fiers parce que c'était un défi technique assez impressionnant.
Alors déjà, le gros défi, c'est qu'on a eu un délai très agressif. On a eu très peu de temps pour pouvoir développer ce produit. Et la deuxième chose, c'est que c'est relativement technique puisqu'on a dû... c'est une pièce qui est très très fine, qui sert de décor pour la montre et sur laquelle en fait est rattaché directement le bracelet, donc qui reprend beaucoup d'efforts. Donc on a dû mettre en place une conception et une structure de pièce, c'est-à-dire orienter les fibres selon une orientation bien spécifique pour obtenir cet aspect strié après usinage, mais également sur les côtés où on voit bien le sens de la fibre, qui permet donc d'apporter une rigidité, notamment dans des zones bien précises, pour pouvoir résister aux efforts du bracelet.
Ici, vous avez tous les différents matériaux qu'on emploie pour le secteur horloger. Et vous voyez qu'on arrive à marier des matériaux aussi différents que le carbone avec du bois, du cuivre avec du carbone, de la broderie de cingale qui a été mariée à du carbone pour lui donner de la rigidité. Chaque secteur a un petit peu ses exigences. Le secteur horloger veut quelque chose d'esthétique. Le composite n'est pas fait pour être esthétique. Mais pourtant, il l'est quand on le soigne. Et ça, c'est assez particulier. C'est très, très motivant de partir de fibres, de fils, et d'avoir après un produit fini qui est une jolie montre en carbone, par exemple.
Sortie de boîte.
Un reportage que vous pouvez réécouter dans sa version longue sur notre site internet. Nous sommes de retour dans notre studio de Léman avec Ahmed Muderis, le directeur de Composite Bouche à Porrentruy. On a entendu l'horlogerie, c'est du coup aussi un des marchés de Composite Bouche. Vous êtes proactif dans l'horlogerie, c'est-à-dire que vous allez voir les clients avec des idées, des suggestions. Pourquoi ?
Oui, c'est juste notre approche d'être proactif, d'apporter des solutions, d'apporter des suggestions. Et
démarcher en fait, c'est ça ?
Pardon ?
C'est une sorte de démarchage, vous allez avec des...
Tout à fait, ouais, on démarche, on va vers nos clients, on les cible quand même, des clients qui ont un potentiel de vouloir évoluer dans certaines directions, et on essaye de leur présenter quelque chose de séduisant et leur faire envie de collaborer avec nous, de développer de nouveaux matériaux, comme l'a été indiqué dans le reportage, avec des mariages de différents matériaux, aussi bien de la broderie de Saint-Gall que le bois, que les métaux précieux. Et c'est donner envie à nos clients de travailler avec nous, tout en leur apportant aussi bien l'idée, mais la conception, le développement et la fabrication des pièces.
C'est impératif aujourd'hui, quand on approche une marque horlogère, d'arriver avec une idée. Ils sont en recherche de ça.
Je pense que tous les horlogers, toutes les marques horlogères sont à la recherche d'innovation, de nouveaux produits. Ils ont aussi un rythme infernal de devoir apporter des nouveautés régulièrement, deux fois par année presque.
On ne peut pas se contenter d'attendre les commandes.
Absolument pas. Et on doit aller en avant, être un partenaire à ces entreprises, à ces marques, pour leur donner des moyens, eux aussi, d'innover et d'apporter des nouveautés sur le marché.
Alors l'horlogerie, c'est un des créneaux. Il y a aussi le sport, on en a parlé. Le médical, on va y revenir. Il y a beaucoup de sociétés qui aujourd'hui cherchent à se diversifier, notamment à cause de la crise horlogère. Vous auriez pu vous contenter à l'époque de produire pour le groupe.
Ouais.
Maintenant, vous êtes sur de nombreuses activités, de nombreux fronts depuis le début de l'entreprise. Comment ça se fait ?
Tout à fait. Alors, on était une entreprise. On a été limité de produire uniquement pour le groupe les pièces qu'on a développées à la base. Et si on veut vraiment être une entreprise, il faut pouvoir entreprendre. Donc cette notion de diversification, elle a été dès le début. On a eu le soutien, l'accord et le push de nos propriétaires, de la famille Bouche, qui nous a encouragés d'aller dans cette direction avec leur vision industrielle de qu'ils avaient. Et nous avons pris ce défi à l'époque et nous avons continué quand j'ai repris aussi en 2001.
Aujourd'hui, il y a plus de 50 collaborateurs qui travaillent à Porrentruy. Avoir autant d'activités, qu'est-ce que ça implique en termes de management ?
Ça implique la nécessité de la flexibilité et de l'agilité. Et cette agilité, il faut qu'elle soit pas seulement au niveau des dirigeants ou des managers, mais elle doit vraiment être dans l'ensemble, avec l'ensemble du personnel de l'entreprise. La polyvalence est une clé de la réussite. Il faut savoir s'adapter. Les demandes des différents secteurs, les exigences sont différentes. Effectivement, quand on livre un produit médical avec toutes les exigences médicales, c'est pas comme on livre un produit, une canne d'hockey. Donc, et l'horlogerie a ses propres exigences.
Gens travaillent dans tous ces secteurs, du coup ?
Les gens travaillent dans tous ces secteurs. Il y a des spécialisations, mais on appuie surtout aussi sur la polyvalence et l'entraide, et pour pouvoir avancer en tant qu'entreprise entière et pas différents secteurs qui avancent et d'autres pas.
C'est difficile de trouver des employés qui ont ces compétences, cette polyvalence.
Je pense que cette polyvalence, on doit leur donner envie de vouloir travailler avec cet esprit. Alors il y a des personnes qui peuvent le voir d'une manière naturelle, d'autres il faut un peu les encourager à voir le côté positif de cette polyvalence, mais c'est essentiel de l'avoir quand on est chez nous.
Mais le recrutement est un défi pour vous.
Tout à fait. Pourquoi ? Parce que notre plus grand capital, c'est le capital humain. Et donc, c'est grâce aux hommes et femmes qui travaillent dans notre entreprise, qui innovent, qui créent, qui développent, qui fabriquent les pièces et qui les livrent, les solutions et les produits à nos clients. C'est grâce à eux qu'on avance l'entreprise. Donc, le challenge de toujours trouver des compétences et de renforcer nos compétences, c'est toujours un challenge pour nous, surtout que nos métiers ne sont pas très courants dans la région, voire en Suisse.
Vous avez, à votre arrivée, amorcé un grand virage vers le médical. À l'époque, il n'y avait pas de pièces qui étaient produites. Aujourd'hui, ça représente 75 000 pièces par an. Quels produits ?
Alors, ce sont des produits principalement utilisés dans l'orthopédie. Et on n'est pas dans l'implantable, donc tous nos produits restent à l'extérieur du corps, et ça c'est peut-être une bonne chose, mais c'est clair qu'on est à l'extérieur du corps avec des systèmes utilisés pour les corrections osseuses, pour la traumatologie, en termes de structure de soutien pour la réparation des fractures notamment.
Le prix du carbone est parfois un peu plus élevé que celui d'autres matériaux dans le médical. C'est quoi les avantages du coup ?
Alors, les avantages sont cette performance mécanique liée avec une légèreté. C'est le grand avantage. Mais dans le médical en particulier et dans l'application orthopédique, le grand avantage, c'est la transparence au rayon X. Cette transparence au rayon X rend nos produits uniques avec cet avantage.
Ça veut dire qu'on peut prendre des radios sans que ça obstrue, c'est ça ?
Exactement. Donc le chirurgien peut voir la fracture et observer cette fracture sans devoir démonter cet échafaudage. Il y a d'autres produits qui sont aussi utiles avec cette qualité du composite carbone. C'est aussi des tables chirurgicales qui sont aussi transparentes parce que durant une opération, parfois, on a besoin de prendre une radio. Et bien sûr, si on est sur une table qui n'est pas transparente, eh ben, on ne pourrait rien voir.
Dans les matériaux composites, vous avez de nombreux concurrents. Comment vous vous démarquez sur le marché aujourd'hui ?
Il y a, comme dans toute industrie, oui, beaucoup de concurrents à l'échelle nationale en Suisse et à l'échelle internationale. Nous, notre approche, c'est d'être un one-stop shop, c'est d'arriver vers nos clients avec une solution clé en main. Aussi bien le développement, la mise au point, la phase prototypage, la pré-série, mais aussi la production en série. Et on apporte à nos clients une solution complète et entière pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et c'est ce qui, je pense, nous démarque et nous donne une force de compétitive.
Mais vous n'avez pas de produit, vous n'avez pas de catalogue.
On n'a pas de catalogue, on n'a pas de produit, on a des compétences et on essaye de les présenter à nos clients, de leur donner envie de travailler avec nous. Alors c'est souvent un peu plus compliqué que ça, mais c'est vraiment l'esprit de notre approche.
La confiance, elle est essentielle, hein, notamment dans le secteur médical. Il y a beaucoup de normes aussi, il y a beaucoup de contrôles. Un de vos objectifs, c'est d'éviter les doubles contrôles ?
Alors, ce serait l'idéal de pouvoir devenir un vrai partenaire à nos clients, c'est-à-dire que les produits qui sortent de chez nous n'ont pas besoin d'être contrôlés chez le client.
Aujourd'hui ?
Pas encore, mais c'est une de nos objectifs, c'est d'arriver à devenir vraiment un vrai partenaire de nos clients, d'arriver à livrer des pièces finies, prêtes à l'usage, mais sans avoir été un deuxième contrôle chez le client.
Un des chocs sur les marchés au niveau de la compétitivité, ça a été, bah, comme pour beaucoup d'entreprises, le Francfort. Mm-hmm. Vous avez dû baisser les prix pour rester concurrentiel. Ça a été quoi l'impact sur l'entreprise ? Comment encaisser ce choc ?
Il faut réagir et donner confiance aux clients et surtout ne pas leur faire peur de cette situation. Donc, il y a eu nécessité d'ajustage de prix. Par la suite, il faut compenser cette perte ou ce manque à gagner par en apportant des moyens d'améliorer la productivité et d'améliorer le rendement en production. Et on a mis en place des initiatives, notamment qui sont construites autour du concept du Lean Manufacturing, qui permettent d'arriver à ces efficacités.
Un travail d'optimisation qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui avec la digitalisation, c'est le prochain défi pour vous.
Tout à fait, c'est le prochain défi. On continue. Bien sûr, l'amélioration continue et dans le cadre du Lean, c'est un travail en continu. Et un projet aujourd'hui sur lequel on travaille, c'est la digitalisation, c'est-à-dire enregistrer les données de nos processus pour mieux les comprendre, pour pouvoir aussi y apporter des améliorations et être plus efficace.
Un autre défi que vous avez, c'est celui de s'envoler, c'est l'aéronautique, on va en parler. Avant ça, c'est l'heure de notre chronique horlogère à Paris. Oui, Paris, Marie-Lise nous emmène dans la capitale française, mais promis, on ne parlera pas de politique.
Pile à l'heure.
Allez, on pose un béret sur notre tête, on enfile notre marinière, on achète une baguette et on met le cap sur la ville lumière.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
Paris regorge de monuments historiques, mais il en est un qui est célèbre dans le monde entier et qui, pour beaucoup, est le vrai symbole de la ville.
La tour Eiffel est toujours là. Bonjour la tour, bonjour, bonjour Paris.
La grande dame de fer a été construite par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l'exposition universelle de Paris en 1889. Elle a été pendant 41 ans le plus haut monument du monde. Elle est composée de 18 038 pièces en fer.
La tour Eiffel jouait au dé, sa ridicule nostalgie.
Saint-Honoré, pour les gourmands, c'est le nom d'une pâtisserie, mais c'est aussi le nom d'une marque horlogère française, créée en 1885, soit deux ans avant le début de la construction de la tour Eiffel. Et devinez quelle est l'inspiration de la marque pour créer ses produits.
Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, boulevard des bouleversés, Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé.
Oui, c'est Paris. Il faut dire que la maison tire son nom d'une rue de Paris. En partenariat avec le comité de la société d'exploitation de la Tour Eiffel, Saint-Honoré a obtenu 200 kilos de fer provenant de l'arche de la Tour Eiffel. Ce fer a été fondu et traité avec 15% de chrome pour en faire une lunette de montre inoxydable. La lunette, on le rappelle, c'est la partie du boîtier qui se situe sur le dessus. Par exemple, dans le cas de montre de plongée, la lunette comporte des éléments chiffrés et des repères et elle peut tourner pour mesurer le temps d'immersion. Revenons à Saint-Honoré qui a donc conçu un modèle de montre collector avec une lunette réalisée à partir d'une poutrelle métallique provenant de la tour Eiffel dont la couleur brune rappelle celle du célébrissime édifice.
Un jour à peindre en couleur la tour Eiffel, lève-toi, chante avec moi.
Pour 2017, Saint-Honoré a dévoilé une édition limitée à 67 exemplaires de cette montre. La petite seconde a la forme d'une roue stylisée qui fait écho aux ascenseurs rouges de la tour Eiffel. Porter un morceau d'histoire et de patrimoine à son poignet, combien ça coûte? Les montres automatiques Tour Eiffel Swiss Made sont à partir de 2690 francs.
Paris sera toujours Paris.
Pile à l'heure.
Une montre que vous pouvez voir et une chronique que vous pouvez réentendre sur notre site internet avec l'intégralité de l'entretien que nous avons eu ce soir avec vous, Maître Muderis, le directeur de Composite Bush. Un dernier défi avant de se quitter que vous avez dans l'entreprise, c'est celui de s'envoler, l'aéronautique. Vous voulez attaquer ce marché, pour quelle raison?
Pour la raison qu'il y a beaucoup de similitudes avec les exigences du marché aéronautique, avec les exigences du marché médical, donc on se sent capable d'affronter ce marché et surtout parce qu'il y a beaucoup d'opportunités.
Il y a des points communs entre l'orthopédie et les avions ?
Oui, c'est les exigences, c'est les normes, c'est la façon de travailler, c'est les attentes des clients sont similaires, cette qualité irréprochable et surtout la nécessité de livrer à temps et dans cette qualité irréprochable, comme j'ai dit.
C'est vrai que c'est des marchés très normés, très certifiés, mais ça complique l'entrée sur le marché, non ? Il n'y a pas un côté un peu...
Ça complique, mais une fois que vous êtes dans ce marché, c'est un marché où vous pouvez perdurer et pouvez compter sur le long terme. Et c'est pour ça que le ticket d'entrée peut être assez élevé. Mais on est confiant, on veut investir pour pouvoir rentrer sur ce marché qui est en pleine expansion et où le carbone a une grande place aujourd'hui dans la conception, dans la construction des avions.
Un gros investissement à court terme, mais pour une bonne rentabilité à moyen et long terme.
On l'espère, oui.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre invité. Très bonne soirée.
Merci.
La semaine prochaine, nous allons rester dans l'horlogerie avec le directeur du groupe Acrotech, François Billig, un fabricant de composants de haute précision qui comporte de nombreuses entreprises dans la région, de Courtaillot à Develier, en passant par Bienne. Un vrai tour de l'arc jurassien dans toute sa précision, c'est ce qu'on vous proposera la semaine prochaine. Très bonne soirée.
Sortie de boîte.